Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse, Le Devoir et Québec Science. Au programme, ados, leurs émotions, revues et corrigées. La France pour Coulon. Et l'ONU lance l'alerte, la planète manque d'eau. Bonne écoute.
Ados, leurs émotions revues et corrigées. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Qu'on se le dise, l'adolescence, c'est des montagnes russes émotives. Imprévisibles, mais pas forcément impénétrables. Parce que parfaitement saines et surtout totalement normales. Même si on semble l'oublier depuis quelques années. Un nouvel ouvrage pratico-pratique fait le point. Stratégie de survie incluse. Dit autrement, oui, vos adolescents vivront des crises, auront des désespoirs, probablement des peines d'amour. Ils vont pleurer, se chicaner avec leurs amis, traverser toutes sortes d'émotions fortes, existentielles, au cube et souvent dans le tapis. Si vous lisez ces lignes, c'est sans doute parce que vous le savez et le vivez déjà. Les yeux au ciel, c'était de la petite bière. Bonjour, les portes qui claquent et les répliques qui fusent. Ce n'est pas nécessairement agréable, on vous l'accorde, mais c'est comme ça. Chez les adolescents, les émotions fortes ne sont pas en option. Ce ne sont pas des bugs, écrit la psychologue clinique et autrice Lisa Damour, accessoirement mère de deux adolescentes de 12 et 19 ans, dans son livre « The Emotional Lives of Teenagers, Raising Connected, Capable and Compassionate Adolescents » en librairie depuis peu. Objectif : expliquer le fonctionnement du cerveau des adolescents en ébullition, démystifier les réactions émotives, souvent genrées, elle s'y attarde avec autant de nuances pour le public non genré, et distinguer le normal, aussi épique soit-il, du plus inquiétant. En un mot, outiller les parents. Exemple concret à profusion. Celle qui signe régulièrement des textes dans le New York Times, à qui l'on doit une populaire balado « Ask Lisa », des ouvrages de référence sur le sujet, dont « Untangled », Guiding Teenage Girls, et qui a plus de 25 ans de pratique derrière la cravate, en remet ici parce que, visiblement, le message ne passe pas. Tout particulièrement depuis 10 ans, note-t-elle. Quelque part au passage, on s'y mit à avoir peur d'être malheureux, selon Lisa Damour. Dit autrement, on s'y mit à voir d'un mauvais œil les émotions négatives, à craindre les larmes, bannir la colère, bref, à chercher à prévenir à tout prix la tristesse et vénérer un peu trop le bonheur. Chez nous tous en général et avec les adolescents en particulier. Une réflexion qui tombe à pic, tout particulièrement après cette pandémie qui a été incroyablement douloureuse pour les adolescents, rappelle-t-elle en entrevue avec la presse. Or, attention, danger, nous dit-elle. Pourquoi, au fait? Avec une infinie délicatesse et toutes les nuances qui s'imposent, la psychologue exprime sa pensée. Parce qu'en agissant ainsi, on les prive d'occasion d'apprendre à se gérer. Faut-il le préciser? La tristesse fait partie de la vie. Shit happens, comme disait Shakespeare, et malgré toutes nos bonnes intentions, nos jeunes n'y échapperont pas. Aussi bien les équiper, non? Avant d'y venir, pourquoi? Pourquoi la mélancolie, les hauts et les bas de nos émotions ont-ils aujourd'hui si mauvaise réputation? Toujours aussi nuancée, la psychologue constate que la santé mentale et de plus en plus méprise, confondue ou associée, dans le langage populaire du moins, à une question de bien-être. Comme si, pour avoir une saine santé psychologique, il fallait être dans un état de béatitude constant. Et la commercialisation du bien-être et de tous les produits dérivés du bien-être, dit-elle, vend l'idée qu'il est possible de prévenir la détresse. Or, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et cela laisse miroiter des attentes irréalistes. Et autant de déceptions. Outre l'industrie du bien-être, la psychologue se demande si l'augmentation notable des prescriptions de médicaments dans les dernières années n'y serait pas aussi pour quelque chose. Certes, précise-t-elle, le Prozac sauve assurément des vies, là n'est pas la question, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si tout cela n'a pas contribué à perpétuer cette idée qu'on devrait tous, nous et nos enfants, s'épargner cette réalité, qu'être humain, c'est aussi vivre des douleurs émotionnelles, écrit-elle en guise d'introduction. Vous écoutez « Ados, leurs émotions revues et corrigées », un texte de Sylvia Galipeau paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Alors, si la santé mentale, ce n'est pas le bien-être, c'est quoi? D'un point de vue psychologique, la santé mentale, c'est avoir des émotions qui concordent tout en sachant les gérer sans se blesser, selon Lisa Damour, psychologue et autrice. Mais encore, son livre commence précisément sur un exemple concret, tiré d'une conversation avec une amie pour illustrer ce concept fondamental s'il en est. Inquiète à cause d'un fils déprimé à la veille d'un déménagement dans une autre ville, cette amie a fait appel à ses lanternes. Sa réponse, par une question. Votre fils est-il déprimé tout le temps ou a-t-il des hauts et des bas? Si c'est le cas, je pense au contraire que sa déprime est un signe de saine santé mentale. Morale. Inutile de vous alarmer si votre adolescent est triste à propos de quelque chose un peu de temps, mais vous devriez vous alarmer s'il est triste à propos de tout pendant beaucoup de temps. De la théorie à la pratique en 6 conseils. Dès l'âge de 11 ans, après une douce et bienheureuse période de latence, le cerveau des jeunes se remet en marche. Il s'y produit une véritable petite révolution qui va s'étirer jusqu'à l'âge de 24 ans. Les neurones se multiplient à la vitesse grand V, les connexions se font et se défont avec les conséquences émotives que l'on sait. 6 conseils pour gérer votre ado et l'aider à se gérer. Être un parent présent et constant. Votre adolescent a une peine d'amitié? Inutile de pleurer avec lui, il a besoin d'un parent présent à ses côtés. D'écoute, une vraie écoute, et d'empathie. C'est tout. D'ailleurs, il n'est pas rare que les jeunes déversent sur leurs parents leur litanie de malheur et semblent ensuite se porter plutôt bien, quoiqu'ils nous gâchent nos journées au passage. On parle ici d'externalisation, une technique bien connue des psychologues assez efficace, merci. Tout cela pour dire qu'en restant malgré tout solide, vous lui envoyez le message suivant ô combien constructif. J'ai confiance en toi. Tu vas trouver une stratégie pour traverser cette épreuve. Une leçon pour la vie. Écoutez, mais pas ruminer. Certes, il est bon de parler, de verbaliser ses émotions. Cela fait souvent passer le méchant, c'est démontré. Mais parler de ses émotions fait du bien jusqu'à temps que ça n'en fasse plus, signale la psychologue clinique et autrice Lisa Damour. Gare à la rumination des pensées négatives, quoi. Elle suggère, en cas de trop-plein, de proposer une diversion. Reparlons-en demain. D'ici là, si on allait au cinéma. Les bons vieux classiques, on parle ici du Roi Lion, font aussi des miracles, paraît-il. Écoutez quand vient le temps. Vous avez décidé que le temps des confidences, c'était à l'heure du souper. Grand bien vous fasse, mais il y a fort à parier que votre jeune, lui, choisira l'instant précis où vous souhaitez enfin vous assoupir pour se confier. Saisissez le moment. D'autres préfèrent encore les textos ou se livrent sans crier gare au détour d'un feu rouge en auto. Étirez le voyage et profitez-en pour écouter toujours. Témoignez de l'empathie, mais sans plus. À noter, vous pouvez poser des questions, mais ne donnez surtout pas votre avis, sauf si on vous l'a explicitement demandé, mais ça, vous le savez sans doute déjà. Lire le non-verbal. Certes, certains se confient, mais beaucoup s'expriment aussi autrement. Apprenez à les lire. Certains adolescents cherchent du réconfort physique tout simplement, tandis que d'autres s'expriment davantage par les arts. D'autres, enfin, se confieront, certes, mais ailleurs et pas à vous. Avoir un jeune qui se confie, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité. Notre job, en tant que parent, c'est d'accompagner tant que la stratégie aide à gérer et à s'adapter. Surtout, ne pas le prendre personnel. Tout cela est bien beau en théorie, mais très complexe en pratique. Quoi qu'il arrive, ne le prenez pas personnel. Il se confie ailleurs à un voisin, une connaissance. C'est de l'ordre des choses que l'adolescent devienne plus secret, plus indépendant. Il est en train d'apprendre à se gérer sans vous, rappelle la psychologue, en soulignant que le cerveau émotif atteint généralement et en moyenne sa maturité après 14 ans. En d'autres mots, le pire se joue à 13-14 ans. C'est généralement le plus intense en début d'adolescence. Quand s'inquiéter? Trois choses à surveiller. Des émotions négatives qui s'étirent dans le temps, des émotions qui nuisent au bon fonctionnement du jeune et l'empêchent d'aller en classe, de voir ses amis, etc. Quand la gestion des émotions nuit à la santé de l'adolescent, on pense ici à des comportements dangereux, une consommation de substances, etc. Le cas échéant, on n'hésite pas à consulter un professionnel de la santé. Cela dit, conclut Lisa Damour, oui, il y a des adolescents fragiles, mais la plupart sont capables de supporter un certain niveau de détresse et de naviguer au travers. C'était « Ados, leurs émotions revues et corrigées », un texte de Sylvia Galipo, paru le 19 mars 2023 dans La Presse.
La France par Coulon, un texte de Louis Cornelier, paru dans l'édition des 11 et 12 mars 2023 du journal Le Devoir. Je ne suis jamais allé en France et je ne pense pas m'y rendre un jour. J'aime le pays de Molière, mais une relation à distance me suffit amplement. La gastronomie ne m'intéresse pas et les lieux, même beaux, ne me parlent qu'après des années d'apprivoisement. De la France, j'aime sa littérature, son histoire, son cinéma, sa musique et ses idées. Pas besoin d'aller à Paris pour ça. De mon salon, j'ai accès à ces richesses de la plus agréable des façons, presque sans polluer la planète en plus. C'est la culture qui compte. Le reste, c'est du tourisme. Je ne crache pas, cela dit, sur les rapports de voyage que me font mes compatriotes les plus avisés quand ils vont faire un tour dans la mère patrie. J'ai aimé voir la France de près, avec des yeux québécois par procuration, grâce au livre de Louis-Bernard Robitaille sur le sujet et à ceux du couple Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau. Chaque année, mon collègue Christian Rioux m'apporte aussi des nouvelles fraîches de l'esprit des lieux. Il y a trop de voyageurs, c'est clair. Certains, toutefois, sont plus utiles que d'autres. Le journaliste et politologue Jocelyn Coulon appartient à cette catégorie. Dans « Ma France », La Presse 2023, 204 pages, un recueil de textes inédits empruntant autant à la chronique qu'au reportage, il brosse en toute convivialité un portrait à la fois amoureux et critique du pays de ses ancêtres. Dans le cas de Coulon, d'ailleurs, cette dernière expression prend un sens direct puisque son père, Jacques, est né à Paris en 1929 et a immigré à Montréal en 1953 avant de marier une fille de Shawinigan. Coulon, par conséquent, ne va pas en France qu'en touriste, mais en véritable cousin puisqu'il y retrouve des membres de sa famille. À Paris, comme à Pau, dans le sud-ouest du pays, il est presque chez lui. Il constate depuis 40 ans que la distinction entre Canadiens et Québécois met du temps à s'imposer en France. Les Français connaissent le Québec, mais continuent de nous désigner comme des Canadiens, comme si les deux termes étaient synonymes pour eux. Le phénomène, selon Coulon, s'explique notamment par le fait que le Québec n'étant pas un pays, c'est le Canada qui demeure la référence obligée à l'école dans les cours de géographie ou d'histoire. Sa marque. Lors de sa première visite en France en mai 1980, alors qu'il était un jeune indépendantiste dans la vingtaine, Coulon avait été froissé par cette confusion. Aujourd'hui, devenu fédéraliste, il s'en accommode en disant même que nous devrions être fiers de l'idée favorable que se font les Français du Canada. Là, c'est moi qui ne le comprends plus. Même s'il peut parfois être ferme dans ses prises de position, notamment dans sa critique de la politique étrangère du gouvernement Trudeau, Coulon demeure d'abord et avant tout un intellectuel courtois et délicat. Dans cette promenade française, ses qualités ne le quittent jamais. Qu'il parle du phénomène des gilets jaunes ou du débat sur les éoliennes qui agitent la France, sont-elles écologiques ou non? Il le fait toujours avec le souci de comprendre les camps qui s'opposent et de leur rendre justice. Coulon ne se prononce jamais directement sur ses penchants politiques français, mais Emmanuel Macron, à l'évidence, s'en sort plutôt bien sous sa plume. La France, constate l'essayiste, est encore le pays du livre, qui est partout dans l'Hexagone, particulièrement dans les grands médias écrits et dans le monde politique. Pourtant, là aussi, la popularité du cellulaire menace l'avenir de la lecture. Pour un cerveau asservi à cette discipline quotidienne, écrit le romancier Abel Quentin, que cite Coulon, lire un livre devient un Everest de plus en plus décourageant. Première destination touristique au monde, la France fait envie, certes, mais elle n'est pas sans défaut. Son système de santé est un des meilleurs au monde, reconnaît Coulon, mais les déserts médicaux, ces régions privées d'accès à un professionnel de la santé, s'y multiplient en zone rurale. La passion française pour l'anglais, quant à elle, a quelque chose de désolant vu du Québec. L'anglais est partout, constate Coulon à regret. Patrie des droits de l'homme, la France est aussi, fait moins reluisant, le troisième plus important exportateur d'armes au monde. Depuis le début du siècle, la thèse du déclin national fait florès en France. Selon certains penseurs populaires, le pays manquerait de courage sur la scène internationale, abandonnerait sa souveraineté à l'Europe, perdrait son identité à cause de l'immigration ou serait menacé d'effondrement économique. Coulon, en conclusion, réfute ces discours alarmistes. La France, écrit-il, sur les plans militaires, économiques et culturels, brille encore dans le monde et demeure un grand pays et une grande puissance. Il l'aime, et moi aussi. C'était « La France par Coulon », un texte de Louis Cornelier, paru dans l'édition des 11 et 12 mars 2023 du journal Le Devoir. Thank you.
l'ONU lance l'alerte « La planète manque d'eau potable ». Un texte de Annie Labrecque, paru le 23 mars 2023 dans Québec Science. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Les Nations unies préviennent l'humanité du risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. Chaque année, depuis 40 ans, les besoins en eau sur la planète augmentent d'environ 1%. L'utilisation effrénée de cette précieuse ressource nous mène à notre perte. Sans une meilleure gestion et une coopération internationale accrue, une crise mondiale qui touchera plus particulièrement les villes sera inévitable, avertit un nouveau rapport sur l'eau publié par l'UNESCO et ONU Eau. Inévitablement, les changements climatiques amplifient la situation. En moyenne, 10% de la population mondiale vit dans des pays où le stress hydrique atteint un niveau élevé ou critique, précise le rapport lancé en marge de la Conférence des Nations unies sur l'eau. Aucun pays n'est à l'abri du problème, a-t-on expliqué lors du dévoilement du rapport aux journalistes. La pénurie saisonnière d'eau augmentera dans les régions où l'eau est actuellement abondante et s'aggravera dans les régions où l'eau est déjà rare, a déclaré le Québécois Richard Connor, qui est l'auteur principal du nouveau rapport et un spécialiste pour le Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau. Déjà, même si le Québec est bien pourvu en eau potable, certains endroits en manquent à l'occasion. Pendant l'été, plusieurs municipalités se demandent comment assurer tous les besoins en eau lorsque les quantités sont insuffisantes ou lorsque la qualité de l'eau n'est pas bonne, souligne en entrevue Sophie Duchesne, professeure spécialisée en gestion de l'eau en milieu urbain à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Près de la moitié de la population mondiale, soit 3,6 milliards de personnes, fait face à des problèmes d'assainissement de l'eau. Une ville, un État, peut prendre l'eau d'une rivière, la traiter et la distribuer dans les maisons, mais une fois que cette eau est utilisée, pour les toilettes ou les douches par exemple, il coûte 5 fois plus cher pour la collecter et la traiter avant de la retourner dans l'environnement. Les États s'assurent de maximiser la distribution de l'eau potable, mais il manque d'argent pour l'assainissement. En fin de compte, 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées sans aucun traitement, a expliqué Richard Connor. Son rapport souligne également la montée des contaminants émergents dans l'eau tels que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques industriels et ménagers, les produits de soins personnels, les pesticides et les nanomatériaux manufacturés. Ces produits détériorent la qualité de l'eau potable. Des villes assoiffé d'eau. D'après les prévisions des spécialistes, la demande en eau des villes devrait augmenter de 80% d'ici une trentaine d'années avec l'accroissement de la population citadine. Les villes dépendent souvent des eaux de surface pour alimenter leur réseau de distribution d'eau potable, mais ces eaux sont également nécessaires pour les besoins agricoles. Réaffecter l'eau initialement allouée aux usages agricoles a permis de satisfaire la demande des villes en pleine expansion. En revanche, cette stratégie n'est pas sans conséquences négatives pour l'agriculture et les zones rurales puisqu'elle implique une diminution des ressources en eau disponibles pour l'irrigation, entraînant un risque pour la sécurité alimentaire, peut-on lire dans le rapport. Selon Richard Connor, la coopération entre les villes et les communautés agricoles est essentielle pour diminuer le problème d'approvisionnement. Les villes en expansion dénichent leur eau potable de plus en plus loin. Des villes près de la mer se tournent quant à elles vers les technologies de dessalement. Par exemple, des villes côtières en Israël qui ont des ressources limitées en eau utilisent le dessalement de l'eau de mer, mais cela a des coûts et des impacts environnementaux, souligne la professeure Sophie Duchesne de l'INRS. D'après la chercheuse, plusieurs pistes peuvent aider à mieux gérer la ressource, dont détecter et colmater les fuites d'eau dans les réseaux d'aqueducs, renouveler les vieilles conduites et ajuster la pression dans le réseau d'eau potable. Si la pression d'eau est trop élevée, il y aura une plus grande quantité qui fuira, explique-t-elle. Aménager les villes autrement. L'aménagement réfléchi des villes peut aider à faire face aux périodes de sécheresse. Des villes comme Singapour, Mexico ou Tucson soutiennent financièrement l'installation de systèmes de collecte des eaux pluviales chez les citoyens. Ces systèmes sont très efficaces pour subvenir aux besoins en eau. D'autres, le comté d'Orange aux États-Unis et la ville de Windhoek en Namibie, par exemple, reconvertissent les eaux usées en eau potable. On a l'habitude de puiser l'eau quelque part, de l'utiliser et de la rejeter plus loin comme eau usée, soulève Sophie Duchesne, chercheuse à l'INRS. Ici à Québec, la compagnie H2O Innovation a développé une technologie pour produire de l'eau potable à partir des eaux usées. C'est une solution pour ne pas aller chercher l'eau de plus en plus loin. Dans tous les cas, le statu quo n'est plus possible, affirme Richard Conner. Une plus grande coopération est indispensable pour le respect des droits de la personne à l'eau. C'était « L'ONU lance l'alerte, la planète manque d'eau potable », un texte de Annie Labrecque, paru le 23 mars 2023 dans Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault et Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Jartman à la présentation et au montage.